Ready?
Let's go!
Touchdown!
Ready, set, BPM, BPM, BPM!
Le Focus NFL.
The ball is spotted. The kick is away. It's blocked! It's picked up by the Eagles. Running with it is Davis. 30, 20, 10, 5. Touchdown! Game over! Jordan Davis!
Are you kidding me?
Locked him again!
Are you kidding me?
Locked him again! Have you ever seen anything like this?
Do you believe in miracles?
336 livres d'amour.
Ça, c'est le descripteur radio.
Et de puissance.
Des Eagles.
Le botté bloqué, pour ceux qui n'ont pas compris l'extrait, c'est le descripteur radio des Eagles de Philadelphie. Un autre botté bloqué par Jordan Davis.
Deux dans le match.
Qui te ramène ça, toi, jusque dans la zone des buts, l'autre bord.
Superbe. Mathieu Proulx, je te dois un sandwich. mais Mathieu,
à un
attends.
Donné, je pensais que tu allais y arriver, par exemple.
Exact.
Une première demi pitoyable. Antonio Brown. AJ Brown s'est mis à produire. Puis là, Devante Smith est arrivé à 60. Fait que c'est-tu quoi? C'est déjà plus que ce que je pensais que les deux allaient faire.
Je suis à 40 verges. Il manquait juste 40 verges, Matt.
Ouais, tu me dois un sandwich pareil.
J'en dois un sandwich pareil. J'ai juste une parole.
Mais là, Matt, oui, belle victoire. Victoire dramatique des Eagles qui sont revenus dans le match. Jalen Hurts qui montre absolument aucune émotion à la fin de cette victoire-là. Mais Matt, j'ai juste une question pour toi concernant les Eagles. Là.
Ouais.
Le touche-push, là. On commence à avoir fait le tour là, du concept. Je pense que ça va être beau. Là.
Moi, j'avais pas de problème. Je dis bien j'avais. Pas de problème avec le touche-push jusqu'à cette année où on réalise qu'il y a des pénalités sur le jeu. Et c'est là où le bas blesse pour moi. Il y a une grosse campagne par plusieurs coachs, plusieurs différents décideurs dans la NFL pour le bannir l'année dernière. On a besoin de 24 votes sur 32 pour changer le règlement. L'année dernière, on a eu 22 votes. Donc, on était deux votes à court. J'ai l'impression que la difficulté d'arbitrer ou du moins les déficiences d'arbitrage de ce jeu, parce que là, sont évidents, tu sais, ces problèmes-là. J'ai l'impression que c'est ce qui va probablement avoir raison. C'est probablement la dernière année qu'on va voir le touche-push. On est mieux d'en profiter chez les Eagles parce qu'on le fait vraiment bien. Moi, j'ai pas vraiment de problème avec le jeu comme tel. Ce que j'ai des problèmes, c'est la façon dont il est arbitré. Il est mal arbitré. On donne un avantage indu aux Eagles et c'est là où il y a un problème pour moi.
Mais non seulement ça, mais en première demi hier, combien de fois on l'a vu encore? T'as parlé de la pénalité, notamment le garde à droite, là, tu sais, qui, ouais. Je sais pas si ça fait partie du jeu, là, qui lève ses mains avant que le ballon soit mis en jeu, puis je veux dire, c'est, en même temps, c'est vraiment pas facile. J'écoutais Pierre Vercheval critiquer les arbitres avec raison. En même temps, ça se passe tellement vite dans le feu de l'action comme ça. C'est vraiment difficile.
Greg, attends un peu. Le truc, là, c'est cette année, là, il y a l'assistance vidéo qui a augmenté leur pouvoir. On leur donne plus de marge de manœuvre pour intervenir dans le match parce qu'on veut s'assurer des bonnes décisions. À la reprise vidéo, c'est évident. Donc, pourquoi, en dedans de 10 à 15 secondes, tu peux rendre la bonne décision? Fait que je comprends que c'est difficile pour les arbitres sur le terrain, mais il n'y a pas d'excuse que le centre de reprise n'est pas en mesure de renverser la décision de même.
Je savais pas si on pouvait le faire sur un hors-jeu, Mathieu, puis ça, c'est mon erreur. Maintenant, je le saurai pour les prochaines semaines. Mais raison de plus, justement. Puis écoute, tant mieux. T'es allé faire un design de jeu qui a fonctionné, ça t'a amené un Super Bowl, ça cause la controverse dans la Ligue, puis là, il y a Mathieu qui est un autre grand fan des Eagles qui nous texte, les autres équipes ont juste à le faire. Ouais, on veut-tu vraiment voir ça? Que... 32 équipes dans la NFL commencent à faire des touches-push, toi, à qui mieux? Là. Moi, honnêtement, ça me tente pas.
4-1, ouais. Tu fais ce que tu veux, je veux dire.
Hey, ils font pas 4-1, Ben.
Ouais, ils font un 4-2.
Ils font à 3-3.
T'as pas toi et toi, arrête.
Mais je suis conscient par contre. Puis, tu sais, pour vrai, moi, j'ai appuyé les Eagles dans toute cette histoire-là depuis longtemps. Puis, j'ai pas de problème à ce que ça continue si c'est bien arbitré. Mais c'est vrai que ça a pas l'air d'un jeu de football. C'est vrai que c'est un jeu qui, juste à sa vue même, sort un peu de l'esprit du football. Ça fait vraiment plus rugby. En théorie, là, tu sais, on devrait pas pouvoir traîner un joueur, pousser ou tirer un joueur. Mais ça, c'est pas mal, ça. Tu sais, on permet ça dans la NFL. Je suis pas certain. S'il fait un sneak, puis que Jalen Hurts seul est capable d'y aller avec juste une faufilade normale, go. Mais là, il y a quelque chose qui sort un peu de l'essence du football, à mon avis. Je suis d'accord avec ça.
Matt, Il y a plein de grandes questions aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le monde à l'envers. Tu sais, t'as comme Mac Jones qui est un des meilleurs corps arrière de la ligue actuellement. Je pense que personne n'avait ça sur sa carte de bingo pour la saison. Mais moi, la question qui retient mon attention après 3 semaines, mais même pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec CJ Stroud qui était écœurant sa saison recrue et là, plus rien fonctionne.
Ouais, c'est tough à regarder, hein. Puis juste une petite parenthèse, parce que tu parles de Mac Jones, je vais prendre la balle au bon. Mais on vient d'apprendre dans les dernières minutes que Nick Bosa, sa saison est terminée, déchirure du ligament, 3 ans
d'ailleurs. Bon, mais un autre, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe avec les 49ers?
C'est sur 3 ans.
Écoute, non, les blessures.
Un après l'autre. C'est vraiment la catastrophe.
C'est horrible. C'est les alouettes de la NFL.
Exact. Fait que ça, mais écoute, puis il revient pas, évidemment, déchirure du croisé. Fait que sa saison est terminée. Écoute, c'est vraiment plate. Ça, c'est vraiment plate pour le spectacle. Puis, tu sais, c'était comme cool quand même. C'est une belle histoire, Mac Jones, de rédemption, tu sais, qui reviennent finalement avec Shanahan, puis que ça fonctionne. Bref, c'est une belle histoire, 3-0, mais là, ça va commencer à être difficile de la guerre avec des tirs-poids, là. Pour ce qui est de CJ Stroud, nouveau coordinateur offensif, il y a toujours une courbe d'apprentissage, il y a toujours une période d'adaptation. Juste pas une excuse, c'est peut-être une explication. J'ai pas perdu foi, moi, à CJ Stroud. Il a tous les outils encore. On lui a donné plus de marge de manœuvre, mais le problème, c'est qu'il joue pas sur la ligne à l'attaque. Puis c'est vraiment là pour moi où le bas blesse, pour cette équipe. C'est vraiment là où il y a un problème. CJ Stroud n'est pas bien protégé. C'est un problème l'année dernière. On a tenté de régler ça en amenant des joueurs de soutien, en quelque sorte. C'est pas parce que tu mets des joueurs sous contrat que ces joueurs-là sont nécessairement bons. Tu sais, c'est comme si, hey, on a trouvé des joueurs de ligne. Non, mais c'est qui les joueurs de ligne que tu as trouvé? On a trouvé des espèces de gars de second rang un peu partout. On a amené ça en disant, on va amener une compétition, puis il y a sûrement quelqu'un qui va émerger du groupe. Malheureusement, c'est pas le cas. Puis encore, ben, il est sous pression beaucoup. Et ça, ben, c'est dommage, mais pas appuyé par le jeu au sol parce que la ligne n'est pas capable d'ouvrir des brèches. Puis là, ben, ça met immensément de pression sur ses histoires de produire avec son bras. Puis la ligne n'est pas capable de protéger, puis de protéger assez longtemps. Ceci étant dit, lui non plus, je ne sais pas, au niveau auquel on s'attendrait. Il nous a tellement impressionné à son année recrue que c'est effectivement décevant, ce début de saison des Texans. Mais moi, je n'ai pas perdu foi. Je pense vraiment qu'il va être capable de rebondir si on est capable de lui donner un peu de temps, ce qui veut dire un peu de protection.
Parlant de décevant, on va revenir sur les Packers et les Falcons dans quelques instants, mais tu voulais glisser un mot sur Caleb Williams.
Ben, moi, j'ai trouvé que c'était son meilleur match en carrière. J'ai trouvé hier, puis certains me diront que c'est peut-être le remède, c'est les Cowboys, la défense des Cowboys, mais j'ai trouvé qu'il a joué avec aplomb, je l'ai trouvé en contrôle, j'ai trouvé qu'il a beaucoup moins improvisé. C'était ça un peu le problème dès le début de la saison. C'est dès que la première lecture, t'es pas là, sauver, courir, essayer de créer des choses en improvisant. J'ai trouvé qu'il a joué à l'intérieur de la structure. Il a rejoint plusieurs receveurs, donc fait contribuer tout le monde. J'ai vraiment trouvé qu'il a joué avec beaucoup d'aplomb, changé les jeux à la ligne d'engagement. Puis Ben Johnson a commencé à rentrer des jeux un peu de fantasy, ce qui rend ça créatif, ce qui rend ça agréable à regarder. Le fameux jeu de la patate chaude, le flea flicker, ça fonctionne. Il fait des passes, puis tu dis, OK, ouais, il y a des outils extraordinaires, ce gars-là. Il y a des éclairs de génie, des fois, puis des moments incroyables. Fait que j'étais vraiment, vraiment impressionné. Et si ça, c'est la base, là, le standard qu'il établit, ben, je pense qu'il va être le premier quart de l'histoire des Bears à lancer pour 4000 verges et 30 passes de toucher cette année, parce que c'était vraiment, mais vraiment beau ce qu'il a fait hier.
Ben, on le souhaite aux partisans des Bears. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup au Québec, mais on leur souhaite. Ça, c'est certain. On ne souhaite pas de mal à aucune organisation. Maintenant, Falcons et Packers, les deux ont, écoute, des contre-performances, là, comme on en voit peu, en fait, dans une saison. Les Falcons tenus au silence complet par les Panthers, puis les Packers qui vont s'effondrer, c'est le cas de le dire, à Cleveland.
Ouais, rapidement sur les deux, là. Écoute, c'est les Falcons tellement décevants. On s'attendait à tellement de cette attaque-là en début de saison. On pensait peut-être une des meilleures attaques du circuit. Puis on dirait qu'à chaque semaine, il y a comme une espèce de régression de la part de Michael Penix. Puis lui, son coordinateur offensif, clairement pas sur la même page. Ça prenait du temps pour que les jeux rentrent. C'était long, toute la mécanique. Juste contrôler le caucus, c'était difficile pour lui. Victime de revirement. Alors que de l'autre côté, ben justement, on a protéger le ballon chez les Panthers. Et c'était ça, c'est une des clés pour eux. Puis la défense, qui était une des pires, notoirement, a été très bonne hier. Puis ils jouent un peu mieux depuis le début de la saison. Fait que ça, c'est encourageant pour les Panthers. Mais pour les Falcons, sincèrement, c'est vraiment décourageant là, de voir ce qu'on a vu hier, de se faire battre 30-0 contre les Panthers. Il y a des coachs qui ont été congédiés pour moins que ça. Là. Puis de l'autre côté, ben, les Packers, écoute, faites face à une bonne défense. La défense des Browns, elle est très bonne. Mais Jordan Love, là, Puis tu sais, on va beaucoup parler du botté qui a été bloqué, mais Jordan Love va lancer une interception impardonnable en fin de match. Ça, là, faut jamais que ça arrive. Puis c'est ça le problème avec Jordan Love. Il est extraordinaire pendant 55 minutes. Puis à un moment donné, il y a 4-5 minutes où il va faire une gaffe, une bourde monumentale, puis il va coûter à son équipe. Ta défense neutralisait complètement les Browns. Puis ouais, là, tu lances l'interception dans ta zone qui mène au toucher qui égale la marque. Ça, c'est une erreur qui va complètement s'afficher. J'ai aimé que Matt LaFleur prenne responsabilité pour la sélection de jeu. Mais sincèrement, Jordan Love n'a pas d'affaires là.
Il va falloir qu'il ajuste ça si notre prédiction, Matt, va ouais, voir le jour là, pour qu'il se rende au ouais, Super Bowl. Rapidement, Mathieu, peux-tu. Il y a eu des changements de réglementation dans la Ligue canadienne de football. Trois qui vont entrer en vigueur l'an prochain, puis d'autres dans deux ans. On se rapproche du football américain un peu là.
Ben, c'est majeur là, comme changement. Là. C'est vraiment un onde de choc dans le monde de la Ligue canadienne. Écoute, un des choses banales, mais qui vont être vraiment mieux, une équipe par côté de terrain. Là, tu sais, t'avais une équipe, deux équipes du même côté, ça faisait en sorte que quand se faisait des substitutions, c'était tellement loin pour se rendre. Donc ça, c'est pas grand-chose, mais ça va changer beaucoup pour les joueurs. On élimine le rouge. Ça, je suis tellement d'accord. Et on voulait pas qu'une Coupe Grey gagne sur un placement raté puis qu'on donne un point. Puis donc ça, on élimine ça. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ah, ça, c'est une maudite bonne nouvelle.
Vraiment. Et on peut encore marquer un point si on botte, puis le retourneur prend le ballon puis pose le genou. Ça, c'est correct.
Ça, c'est correct.
Mais
oui,
c'est une décision stratégique, mais on peut pas gagner sur un botté raté.
Parfait.
Ça, c'est une très bonne nouvelle.
Enfin.
Ben oui.
On recule les poteaux derrière la zone de but, donc il y aura plus d'obstruction dans le terrain. Ça aussi, c'est un peu folklorique, mais il fallait éliminer ça, puis on réduit la zone de but de 15 verges. Fait qu'effectivement, wow, puis on met le terrain à 100 verges. Ça, je suis pas trop sûr pourquoi, sincèrement. C'est vrai que ça va ressembler un peu plus à un terrain américain, mais l'essence du football canadien, ce sont les 12 joueurs, les 3 essais, puis la largeur du terrain. Donc, compte tenu de tout ça, pour moi, le football canadien ne perd pas son essence, mais fait des changements structurels importants pour dynamiser, puis rester à l'avant. T'sais, soit que tu évolues ou soit que tu meurs. Puis la Ligue canadienne, je trouve qu'ils ont pris des très, très bonnes décisions pour évoluer. Je pense que ça va améliorer le spectacle pour tout le monde. Donc, je suis vraiment tout à fait en appui de toutes ces décisions-là qui ont été prises aujourd'hui et annoncées par la Ligue.
Ce sont de très, très bonnes nouvelles parce que Mathieu, en terminant rapidement, j'ai fait des observations et je vous ai écouté vendredi, évidemment, à Toronto, le match des Alouettes. Sincèrement, c'était désolant de voir le peu de spectateurs à Toronto.
Il
n'y a pas de monde, mais il n'y a pas beaucoup de monde dans les stades. Je te dirais, hormis Montréal, là, c'est décevant de voir qu'il n'y a pas grand monde dans les stades de la Ligue canadienne.
Il me semble qu'à Regina, c'était pas sold out. Là. Il restait des
places. Il faut gagner. À Vancouver, présentement, ça va bien. À Winnipeg, malgré le fait qu'ils n'ont pas nécessairement la grande équipe cette année, ils remplissent le stade. À Montréal, ça va bien, mais tu as des marchés où c'est plus difficile. Toronto en est un. Calgary en est un autre. Puis effectivement, Regina, qui était un peu la mecque du football canadien, c'est plus difficile cette année. Donc, il y a des choses à faire. Puis c'est pourquoi je trouve que c'est une bonne chose. Il faut réagir. Faut pas rester là puis dire « Hey, on a des acquis, ça fait 110 ans que notre ligue existe, on est toujours là, on va rester. »
Bravo,
non, faut innover. Je trouve que c'est innovant ce qu'ils ont fait. Genre de voir ce que ça va donner comme spectacle. Je trouve ça le fun aussi qu'on fasse ça de façon progressive. Quelques règlements l'année prochaine, d'autres pour l'année suivante. Donc, on va de l'avant. J'adore ce qu'on fait du côté de la Ligue.
Bonne nouvelle.
Merci, Mathieu, de tes brillantes analyses. On se reparle vendredi.
Salut, boys.
Salut, Marc.